Ouvre-la.
Ouvre-la.
T'es-tu déjà demandé ce que tu en savais sur les défis environnementaux actuels ? Tu aimerais ou aurais aimé en apprendre plus à ce sujet en secondaire ? Tu t'es déjà demandé comment, sous quelle forme, apprendre ces enjeux parfois compliqués, car imbriqués à d'autres crises ? Quel sujet aborder précisément ? Si tu te poses toutes ces questions, je t'invite à écouter ce podcast réalisé par la team Enviro du Forum des jeunes qui a questionné plus de 1000 jeunes à ce sujet. Si tu restes sur ta faim, pas de souci. N'hésite pas à aller consulter l'avis complet sur le site des forums des jeunes.be.
En secondaire, est-ce que vous avez eu des cours qui ont abordé les enjeux environnementaux ? Et si oui, est-ce que vous avez été satisfait des informations que vous avez reçues ?
Pas tellement, non.
Moi, j'en ai pas eu. Non.
On a eu les trucs basiques avec les nuages qui se forment et tout ça, mais rien à voir avec de la vraie écologie, quoi.
Non, moi, je pense que j'en ai pas eu du tout.
Pas dans mes cours, perso.
Bah, moi, un petit peu en cours de sciences, parfois, on abordait quelques thèmes, mais c'était assez... C'est vraiment un petit peu, quoi, très, très abstrait. Donc,
Bah, nous, juste sur la gestion des déchets, à part ça, j'ai jamais eu aucun cours là-dessus.
Pour nous, c'est pas des enjeux qui ont été abordés en secondaire.
Moi, j'ai rien eu du tout. Ni actualité, ni environnement, zéro.
Bon. C'est pourtant nous, les jeunes, qui, dans les années à venir, seront amenés à prendre des décisions pour le futur et qui subiront le plus les impacts des changements climatiques. On devrait donc avoir accès à des informations concernant les crises environnementales actuelles, leurs conséquences, les liens entre les différentes crises et surtout, les pistes d'action à mettre en œuvre pour assurer une société vivable et durable. Dans notre enquête, 9 jeunes sur 10 ont estimé qu'on devrait davantage aborder l'éducation à l'environnement à l'école. Et c'est logique que l'école soit identifiée comme LE lieu d'apprentissage pour ces enjeux. Car elle représente le seul endroit par lequel passent tous les jeunes et où on passe le plus clair de notre temps. Pourtant, pour 3/4 des répondants, les thématiques liées à l'environnement n'ont pas suffisamment, voire pas du tout, été abordées dans leur parcours scolaire. Si l'on va plus loin, on se rend compte que plus de la moitié des jeunes interrogés estiment que leur formation, actuelle ou passée, ne leur permet pas de prendre des décisions durables et respectueuses de l'environnement dans leur futur. Tout ça n'est pas très satisfaisant ni rassurant d'ailleurs. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait ?
Ouvre-la !
Toi, tu penses que l'éducation à l'environnement, ça devrait davantage être abordé à l'école ? Et comment ? Sur quel sujet ?
Ouais, ça devrait en faire partie, je pense. Enfin, du moins à l'heure actuelle, avec tout ce qui se passe, je pense que ça pourrait être que bénéfique.
Moi, je pense que oui, parce que personnellement, j'ai vu la différence entre avant de commencer mon bachelier et après mon bachelier. Et maintenant, mes comportements ont quand même assez changé par rapport à avant. Donc, je pense que c'est le rôle un peu de l'école de conscientiser un maximum.
C'est vrai que je pense que si on avait eu des cours plus tôt pour nous sensibiliser, je pense que j'aurais eu des comportements que j'ai maintenant, mais plutôt plus responsables envers l'environnement.
Ouais, je suis assez d'accord. Si on avait eu ne fût-ce que des conseils pratiques ou des petites choses à mettre en place au quotidien, je pense que ça aurait aidé.
Comme on vient de l'entendre, ce sont vraiment les solutions aux problèmes environnementaux qui doivent être abordées en priorité. On veut connaître les solutions tant au niveau individuel, comme la sobriété énergétique ou numérique, ou encore la réduction de la consommation de viande, qu'au niveau collectif, comme avec des mesures politiques ambitieuses en la matière. Au niveau des thèmes, on aimerait vraiment aborder l'impact du changement climatique, tant au niveau local que global, mais aussi le lien entre les changements climatiques et les autres crises environnementales, comme la crise de la biodiversité, ou encore le lien entre le changement climatique et la justice sociale. En gros, on pourrait se servir d'une pédagogie plus active, qui permet de s'impliquer dans l'apprentissage, en partant de notre sens, de nos vécus, au lieu d'un cours plus classique où on reçoit la matière sans vraiment pouvoir participer dans l'apprentissage et sans lien avec notre réalité. On voudrait aussi plus de moments de débat et pouvoir organiser des semaines spéciales à l'école dédiées à l'environnement, pour mieux comprendre ces enjeux. C'est ce que prévoit le concept d'éducation transformatrice, qui veut créer des ponts entre le milieu scolaire et le monde que les jeunes souhaitent construire en dehors de l'école.
Ouvre-la.
Mais alors, qui devrait aborder ces enjeux environnementaux à l'école? Et surtout, comment?
Moi, je dirais quelque chose d'assez concret. Faire 20 pages de théorie, ça intéresse moins un jeune que lui montrer des images concrètes et des actions concrètes.
Mais je pense surtout aussi sur l'impact des gestes qu'on a au quotidien. Par exemple, baby, comme acheter des vêtements, quel impact ça a réellement d'acheter des nouveaux vêtements? Qu'est-ce que le gaspillage alimentaire a comme impact?
Moi, je pense que les choses qu'on retient le mieux, c'est celles qu'on associe à une activité.
Moi, je pense des cours, ce serait bien. Après, il faut que ce soit dosé et bien fait.
Je pense que ce serait important de parler de l'importance des choix individuels, mais surtout de comment s'organiser collectivement pour aboutir à un réel changement.
Extérieur. Pour moi, ça devrait être extérieur, un peu comme beaucoup de sensibilisation. Mais le problème, alors, je trouve, c'est qu'il y en aurait trop peu, parce qu'on le ferait une fois par an, tous les 4 ans, et du coup, ça ne tiendrait pas le coup. Mais d'un autre côté, je trouve que si c'est les profs, ça va être... trop banal, alors que, je sais pas, une ASBL ou quelque chose qui est vraiment investi là-dedans et qui a des exemples, ça marque plus et ça rend vraiment plus intéressant.
Bah oui, plus des personnes de l'extérieur, pas forcément avoir un cours 2 heures semaine sur l'environnement, mais plus avoir des séminaires ou oui, une journée vraiment concentrée sur ça avec bah oui, des gens du milieu associatif, ça pourrait être bien.
Comme le disent les jeunes qu'on a rencontrés, les professeurs et les professionnels de l'éducation à l'environnement ont un rôle important à jouer. Les profs, de leur côté, pourraient intégrer davantage les différents enjeux environnementaux dans leurs cours pour montrer le caractère transversal des crises environnementales actuelles. Mais pour ça, il faudrait intégrer l'éducation à l'environnement dans tous les programmes scolaires en secondaire. Il faudrait aussi former les professeurs pour qu'ils puissent faire des liens avec leur discipline et non leur ajouter de la matière en plus à aborder. Les acteurs externes, de terrain, qui travaillent sur l'environnement pourraient compléter cet apprentissage en venant faire des animations. Ils pourraient aussi utiliser des outils pédagogiques pour aborder les différents aspects d'une crise environnementale et ses liens avec d'autres crises climatiques ou énergétiques, par exemple. On peut notamment citer l'organisation d'ateliers zéro déchet ou encore faire en sorte que la cantine propose des produits de saison. Pour les outils, on peut citer les différentes fresques du climat, de la biodiversité, du numérique ou encore la création d'éco-teams dans les écoles. Face à cette demande des jeunes, on s'est renseigné pour connaître la réalité de l'éducation à l'environnement à l'école. On a rencontré Grégory, de la Direction Générale de l'Enseignement Obligatoire, et Christophe, du Département de l'Éducation à Bruxelles Environnement, qui est l'administration de l'environnement, de l'énergie et du climat de la région bruxelloise. Du coup, pouvez-vous nous en dire plus au sujet de ces politiques prises pour renforcer l'environnement à l'école?
Il existe depuis plus de 10 ans un accord de coopération entre la région bruxelloise, la région wallonne et la communauté française, Fédération Wallonie-Bruxelles, en matière d'éducation relative à la nature, l'environnement et le développement durable. C'est un accord qui rassemble les administrations, les cabinets régionaux et de la communauté, les réseaux d'enseignement et des représentants des associations. Et cet accord a pour objectif principal d'intégrer l'éducation à la nature, à l'environnement et au développement durable dans le cursus des élèves et dans la gestion des écoles.
Oui, donc pour revenir à une mesure politique qui répond aux attentes de la jeunesse francophone, je pense que dans le cadre du pacte pour un enseignement d'excellence, on peut sans doute citer les nouveaux référentiels de compétences qui vont rentrer. D'ici 2028, ils vont baliser le parcours d'apprentissage du tronc commun, donc de la troisième maternelle à la troisième secondaire. Et alors, les membres de l'accord de coopération ont été associés donc dans la rédaction de certains de ces référentiels pour veiller à ce que l'éducation à l'environnement et au développement durable soit présente et identifiable dans ces référentiels. Donc, on trouve des concepts liés aux enjeux environnementaux, la nature et au climat, dans les référentiels, par exemple, de sciences, d'éducation à la citoyenneté, sciences humaines, ainsi que dans celui de formation manuelle, technique et technologique. Donc, c'est une avancée qui permet et qui oblige aussi, en quelque sorte, les enseignants à s'emparer de ces contenus petit à petit.
Ok, et qu'est-ce que cela signifie concrètement? Quels sont les axes d'action, objectifs de celui-ci?
L'accord se concrétise par un programme d'action. Effectivement, il est défini sur 3 ans et il va évoluer en fonction des besoins identifiés, de l'actualité. On sait par exemple qu'on est en pleine crise énergétique, ça ramène la question de l'énergie dans les écoles sur le devant de la scène. En gros, il y a plusieurs domaines d'action et les 3 principaux sont l'intégration de l'environnement, du développement durable dans la formation des profs, une assistance aux écoles et un accompagnement en vue d'une éco-gestion des établissements et une information structurée en matière d'outils pédagogiques.
Ok, on comprend mieux ce que cet accord représente. Mais du coup, en réalité, en 2023, quels sont les principaux freins rencontrés dans la poursuite de ces 2 objectifs?
Donc, par rapport à l'intégration de l'éducation relative à l'environnement dans le cursus scolaire, on peut parler que la transversalité constitue à la fois un frein, mais aussi peut aussi devenir un atout. Donc, par exemple, dans l'enseignement secondaire, qui est davantage cloisonné que le fondamental, Ça demande donc beaucoup plus de coordination entre les différents professeurs pour pouvoir articuler l'éducation relative à l'environnement dans leurs cours respectifs. Dans le fondamental, cela se fait de façon plus naturelle, puisqu'il y a souvent un seul, voire deux intervenants au maximum en classe. Et alors, à contrario, cette transversalité peut aussi devenir un levier pour fédérer dans l'enseignement secondaire autour de projets communs à l'échelle d'un cycle ou même voire d'une école.
Il y a un autre frein important, notamment relevé par des études internationales, sur le manque de connaissances et d'expertise des sujets, qui, c'est vrai, sont parfois très complexes par les enseignants. Et puis, je relève aussi une difficulté dans les écoles, et en particulier chez les enseignants, à identifier les sources de qualité pour choisir des textes sur des contenus environnementaux dans des cours de français ou pour identifier des situations problèmes, alors que l'environnement, finalement, c'est une porte d'entrée incroyable en matière de mathématiques, de sciences, de français ou d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté.
Pour les partenariats externes, le principal frein, il est souvent d'ordre financier. Donc, en dehors des appels à projets financés par les pouvoirs publics, pour pouvoir proposer des animations en classe ou sur le terrain à un coût, qui va souvent empêcher les écoles de franchir le pas, et surtout de manière pérenne.
Un dernier frein, c'est sans doute la méconnaissance par les travailleurs des ASBL des réalités scolaires. Il faut apprendre à connaître la vie de son partenaire, à reconnaître son expertise sans se substituer à lui dans l'enseignement.
Ok, mais alors, comment renforcer la place de l'environnement à l'école ?
Il est tout d'abord important de préciser qu'en Fédération Wallonie-Bruxelles, si les référentiels sont communs à tous les élèves, les programmes scolaires, donc tout ce qui va toucher à la méthodologie, là, ils sont propres à chaque réseau d'enseignement. Ils sont en général construits par leurs propres référents pédagogiques qui s'appuient sur les référentiels de compétences, donc qui sont communs à tous les élèves. Alors, pour permettre une lecture transversale de ces différents référentiels en s'axant sur l'éducation relative à l'environnement, nous avons nous demandé, dans le cadre de l'accord de coopération, la rédaction d'une brochure thématique. Alors, l'objectif, c'est qu'elle puisse offrir aux enseignants un aperçu général des différentes façons d'aborder l'environnement au sein de leurs propres cours. Et là, on souhaite également analyser les plans de pilotage afin de pouvoir dresser un constat de ce qui s'implante petit à petit dans les écoles en matière d'éducation relative à l'environnement et de récolter des pratiques inspirantes afin de pouvoir les partager et les diffuser au sein des autres écoles.
Il y a aussi d'autres pistes qui existent déjà ou à inventer. Je pense à diffuser des fiches thématiques en lien avec les référentiels, mettre en place des parcours de formation pour les profs. Un élément très important, c'est de prendre au sérieux la question des futurs désirables et leur traduction dans des métiers de la transition, dans les cours, des visites, des sorties scolaires. Aménager et utiliser des espaces dédiés à la transition, cours de récré végétalisés, Ripper Café, communauté d'énergie, sont autant de dispositifs qui jouent sur la résilience des écoles et sur l'éducation. Organiser des ateliers conjoints prof et SBL pour justement peut-être constituer des fiches pédagogiques. Et alors utiliser les heures de coordination et les aménagements horaires dans l'organisation des écoles secondaires seraient là des pistes à généraliser.
Ouvre-la.
Donc l'école a clairement un rôle à jouer. Mais en dehors de l'école, est-ce que tu connais des sources d'informations sur ces enjeux ?
Ça se passe un peu sur les réseaux, mais après, je suis pas sûr qu'il y ait de réelles
Non, moi, j'en ai pas une
plateforme.
Comme ça, non. Ça me dit rien du tout.
Il y a quand même pas mal de pages Instagram, mais là, j'aurais plus difficile à vous le dire, mais genre des médias positifs, moi, je trouve déjà, c'est hyper intéressant.
Ouais, je saurais pas donner de nom ou d'organisation précise.
Et ce ne sont pas les seuls. Dans notre enquête, 83% des jeunes interrogés ont répondu ne pas connaître de sources d'infos liées à l'environnement et qui s'adressent à nous, les jeunes. Pour ceux qui ont su en citer, ce sont pour la plupart des comptes de vulgarisation de l'information sur les réseaux sociaux. Par exemple, Hugo Décrypte, Bonpote et Brut ont été les plus mentionnés par les répondants. Les réseaux sociaux représentent souvent la première source d'information pour les jeunes sur le sujet. Du coup, ce serait cool d'élargir l'éducation aux médias dans l'enseignement obligatoire pour qu'on puisse vérifier un peu la fiabilité de ces sources. Mais le problème avec les réseaux sociaux, c'est que tous les jeunes n'y ont pas accès de la même manière. Certains d'entre eux vivent une fracture numérique, d'autres ne connaissent pas ces médias ou influenceurs, notamment à cause des algorithmes qui ne proposent que ce qu'on connaît déjà. Est-ce notre devoir de s'informer ou est-ce le rôle de l'école, des médias, des parents ? Peut-on laisser Internet s'emparer de cet enjeu ? Peut-on estimer que tous les jeunes ont le même accès et les mêmes compétences face au numérique ? En réalité, poser ces questions, c'est déjà y répondre. Et face à cette situation, on est beaucoup à demander à l'école de jouer un rôle d'égalisateur social. Pour effacer un peu les inégalités existantes entre les jeunes. On veut que l'école nous donne accès à des informations qui nous permettent d'agir en tant que citoyens.
Ouvre-la.
L'environnement est devenu un enjeu tellement important qu'il faut clairement le faire rentrer dans le programme.
Ouais, intégrer ça dans le programme des partis comme dans le programme scolaire.
Que ça soit plus représenté dans les programmes politiques, c'est que maintenant, on commence de plus en plus à en parler, mais c'est quand même pas tous les partis politiques non plus qui en parlent, donc...
En résumé, on veut en apprendre plus sur l'environnement et surtout l'apprendre autrement. Et c'est bien normal, vu la gravité de la situation et l'immensité des transitions nécessaires. On entend souvent qu'on est la génération du changement, et ces attentes pèsent lourd sur nos épaules. La moindre des choses serait de nous outiller correctement, notamment à travers notre parcours scolaire. Nous, les jeunes, avons des demandes concrètes. Ce serait pas mal que les politiques nous écoutent sur des sujets qui nous concernent directement, comme celui-ci. Révolutionner le contenu des programmes et les modes de pédagogie ne se fera pas en un claquement de doigts. On a besoin d'une vraie volonté politique de penser l'environnement comme une priorité transversale dans nos vies. Car cela demande des moyens pour soutenir les professeurs et les acteurs du secteur qui doivent eux aussi être formés. Bien sûr, l'éducation ne suffira probablement pas à résoudre les crises environnementales à elle seule. D'autres politiques essentielles doivent directement être mises en place en termes de mobilité, d'alimentation ou encore de logement. Mais sur ces sujets aussi, la compréhension des enjeux, le débat sur notre avenir commun sont des premiers pas essentiels qui mènent à la prise de conscience et à l'action. Et d'ailleurs, ça marche. Par exemple, une étude publiée en octobre 2022 a montré comment les élèves d'une école américaine avaient modifié leur comportement pour alléger leur empreinte carbone suite à un cours sur les changements climatiques. Ça existe ailleurs. Alors à quand en Belgique? Certaines écoles se bougent déjà et proposent des pistes super intéressantes d'éducation à l'environnement. Ce qu'on demande, c'est que ces bonnes initiatives deviennent systématiques. Bref, dans tous les cas de figure, apprendre et comprendre le monde qui nous entoure est toujours une bonne chose. Car savoir, c'est pouvoir.
C'était le podcast de la team Enviro du Forum des Jeunes. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à consulter l'avis complet qui est sur notre site internet forumdesjeunes.be. On est aussi disponible pour en discuter via les réseaux sociaux du Forum des Jeunes. Allez, à bientôt !